RTL. On le sait, le climat change. Et on a constaté ces changements dans un épisode précédent. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose pour lutter contre le changement climatique. C'est peut-être parce qu'on compte sur les technologies. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Des technologies pour diminuer les gaz à effet de serre dans notre atmosphère sont-elles vraiment au point? Elles pourraient re-régler notre climat déréglé?
Là, c'est pas que la technologie qui va nous aider. On en aura besoin, mais elle n'empêche pas du tout la nécessité et l'urgence de mesures de réduction des émissions actuellement.
Microscience, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microscience, et dans un épisode où on va explorer des solutions technologiques pour réduire nos émissions de carbone, en particulier dans l'agriculture. Se rendre compte aussi que ça ne va pas suffire. Et en toile de fond, se demander pourquoi on ne se bouge pas les fesses en matière de climat. Otto Schaeffer est notamment biologiste, éthicien de l'environnement et membre de la Commission fédérale suisse d'éthique de la biotechnologie dans le domaine non humain. En gros, c'est une commission extra-parlementaire chargée de conseiller les autorités. Et cette commission vient de publier un rapport qui s'intitule « Changement climatique, agriculture et rôle des biotechnologies ». Ce serait merveilleux, non? De ne rien devoir faire et compter sur les ingénieurs ingénieux pour régler le problème à notre place.
C'est une grande tentation humaine. Dès que nous sommes contraints de changer de comportement, de mode de vie, nous essayerons toujours d'esquiver cette nécessité qui est inconfortable. Enfin, nous préférons nos zones de confort. Dans la vie quotidienne, dans les stratégies politiques, c'est tout à fait normal. Les modifications douloureuses et changements qui pèsent, on essaie de les éviter. Et donc, la technologie nous fait miroiter la possibilité d'éviter le changement.
Bon, on va examiner tout cela. Souvenez-vous, les accords de Paris, la Suisse s'est engagée en vertu du droit international à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré et à atteindre l'objectif de zéro émission nette. L'agriculture contribue à 14% des gaz à effet de serre suisses.
La stratégie climatique à long terme de la Suisse fixe comme objectif de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture d'ici à 2050.
2050 ? C'est pas un peu loin?
Alors en fait, il y a des étapes. Pour 2030, on parle d'à peu près 22%. Donc c'est un processus progressif. Mais c'est pas si loin que ça en réalité, 2050. C'est, on peut dire, l'espace d'une génération. Les personnes qui travailleront et auront des responsabilités en 2050 sont déjà nées, vont probablement déjà à l'école. Voilà, il est normal d'avoir cet espace de planification. Et il est très important aussi pour tous les acteurs concernés d'avoir des perspectives fiables à moyen terme et si possible à long terme.
Bon, ok. Et 40% de réduction, c'est beaucoup, c'est peu?
Alors c'est peu comparé à d'autres secteurs de la société. Le bâtiment, les transports. Le but global est un zéro net.
Zéro net, c'est quoi? C'est un zéro bien dessiné, sans bavure?
Les émissions de gaz à effet de serre doivent être nulles. Enfin, le bilan doit être nul. De toute façon, on émettra toujours des gaz à effet de serre. Et tout ce qu'on n'arrivera pas à ne pas émettre, il faut le retirer de l'atmosphère. Et en réalité, l'agriculture, dans la politique actuelle, est relativement privilégiée parce qu'on lui demande un effort moindre qu'à d'autres secteurs.
Ah, un privilège. L'agriculture fait donc office d'exception. Cette exception, c'est pour que tout le monde ait à manger ?
Parmi les fonctions de l'agriculture, la sécurité alimentaire est absolument essentielle. C'est un aspect important. Donc, il faudra certainement faire des concessions au niveau des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en contrepartie, il faut assurer la sécurité alimentaire.
Mais quoi à manger, au juste?
C'est cette différenciation au niveau de la sécurité alimentaire entre besoins fondamentaux, alimentation adéquate. Donc adéquate, ça intègre aussi des facteurs culturels et la liberté de consommer ce que je peux m'offrir, ce que je veux. Et ça n'a pas la même respectabilité, ces trois niveaux-là. Il me semble que dans le débat politique, cette distinction est rarement faite.
Le fait est qu'il faut gérer les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Il faut, d'une manière ou d'une autre, dompter ces gaz pour qu'ils arrêtent de faire des dégâts dans notre atmosphère. Mais de quel gaz à effet de serre parle-t-on ?
Oui, de quel gaz à effet de serre parle-t-on ?
Alors c'est le CO2 pour l'exploitation agricole, mais il y a des gaz à effet de serre spécifiques, en particulier le méthane, qui est d'ailleurs un gaz beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Sa durée de vie est nettement moindre, mais l'intensité de l'effet est beaucoup plus grande. Le méthane qui provient de l'élevage en grande partie, les ruminants. Et puis le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui provient des engrais azotés. Et le protoxyde d'azote est un très puissant gaz à effet de serre.
Donc, à ma gauche, trois gaz à effet de serre dus à des tracteurs qui roulent, des champs qu'on laboure et des vaches qui flatulent. Et à ma droite, des technologies.
Le principe de ces technologies, qu'on appelle d'émissions négatives, et de retirer des gaz à effet de serre et surtout du gaz carbonique de l'atmosphère et ensuite de stocker ce gaz carbonique de manière à éviter qu'il s'échappe de nouveau dans l'atmosphère. Donc réduire durablement le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère.
Ça s'appelle planter un arbre, ça ?
Oui, mais à ce moment-là, un arbre supplémentaire. Hein, parce que le principe est de dire tout ce qu'on émet de trop, il faut le retirer. Les forêts qui sont déjà là sont très utiles aussi, mais surtout des forêts très anciennes, en fait, ne contribuent pas à retirer davantage de gaz carbonique de l'atmosphère parce que ces forêts sont en équilibre. Parce qu'il y a aussi la décomposition du bois qui émet du gaz carbonique. Voilà. Donc, planter des arbres là où il n'y en a pas encore. Et puis, il y a des projets de ce genre. Ça, c'est une possibilité. Ça demande beaucoup de place. Ça, c'est une difficulté. Et c'est lent. Un arbre, bon, il y a des arbres qui poussent plus vite. Il y a le Pavlovnia, par exemple, dont on parle beaucoup. C'est un arbre qui pousse très, très vite. Mais très vite, ça veut quand même dire, au fil des années, voilà, il augmente de volume.
Oui, sauf qu'il faudrait, selon une étude de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, datant de 2019, il faudrait planter l'équivalent de la superficie des États-Unis en Pavlov machin, pour compenser le bilan carbone de la planète. Donc, il n'y aurait pas une option plus rapide et qui prend moins de place ?
Il y a d'autres procédés qui sont plus physiques. Filtrer l'air pour en retirer le gaz carbonique et puis après, stocker ce gaz carbonique dans des cavités souterraines. Il y a des prototypes en Islande, parce que le problème de cette technologie, c'est que ça demande évidemment de l'énergie de nouveau. Et cette énergie ne peut pas être fossile, sinon ce serait absurde. Donc il faut de l'énergie renouvelable, enfin par exemple la géothermie ou l'énergie hydraulique. Voilà, donc en Islande, effectivement, on a commencé à mettre en place ce type de technologie. Alors si la Suisse veut s'appuyer là-dessus, ça suppose aussi tout un contexte de coopération internationale avec la stabilité géopolitique que ça suppose. Donc il y a de grandes incertitudes qui pèsent pour l'instant sur ces technologies dites d'émissions négatives.
Tu m'étonnes. Filtrer tout l'air de la planète, c'est ambitieux hein, quand même. Mais à ce stade, ça serait pas plus simple de modifier les plantes pour qu'elles soient plus efficaces pour capter le CO2 ?
On peut évidemment imaginer des variétés obtenues par sélection génétique, par génie génétique aussi, et qui seraient plus efficaces encore. Des plantes qui stockeraient du gaz carbonique dans leurs racines, par exemple. Tout ça, c'est au niveau de l'atténuation de l'effet de serre. Donc, émettre moins de gaz à effet de serre et en retirer.
Tout ça, ce sont des jolies promesses, hein. Mais j'ai quand même l'impression que tous les 10 ans, on nous dit que c'est pour dans 10 ans. Et en attendant, le climat se réchauffe.
Il y a tout le domaine de l'adaptation, puisque le changement climatique est déjà en cours, on ne pourra plus le prévenir. Et donc là, il faudra des plantes, des modes de production aussi, qui soient adaptés aux évolutions en cours.
On a donc tout un panel de possibilités techniques, mais le plus simple serait d'éviter d'émettre ces gaz à effet de serre.
Absolument. Et c'est prioritaire. Et dans le rapport de notre commission, c'est cet aspect que nous avons souligné. Alors toutes les possibilités techniques permettant de retirer des gaz à effet de serre ou alors d'améliorer l'adaptation à un climat modifié, toutes ces techniques sont intéressantes et on en aura besoin, mais elles n'empêchent pas du tout la nécessité et l'urgence de mesures de réduction des émissions actuellement. Et tous les domaines sont concernés, aussi l'agriculture.
Et ces possibilités techniques, Otto Schaeffer nous le dit, nous font miroiter d'éviter le changement. C'est dommage. Moi, j'avais imaginé que ce serait un formidable défi.
Oui, je dirais heureusement, parce que sinon, on aurait une vision purement pessimiste. Et il y a quand même, malheureusement, beaucoup de raisons d'être pessimiste sur beaucoup de plans. Enfin, quand même, une dégradation des conditions de vie, une grosse difficulté pour les jeunes générations et les générations à venir. En même temps, heureusement, il y a aussi le défi de la créativité humaine. La créativité humaine peut être stimulée par des défis. Même sur le plan économique, on peut considérer que des innovations technologiques créeront des emplois, développeront de nouvelles branches. C'est stimulant en même temps.
Mais ça ne suffit pas.
L'utilisation de ces technologies à une large échelle, dans le meilleur des cas, ce sera pour la deuxième moitié du siècle. Donc ça peut pas être un argument pour ne pas tout faire aujourd'hui pour réduire les émissions.
Parce que sinon ce sera trop tard.
En partie ce sera trop tard.
Plus de 80% du méthane et 60% du protoxyde d'azote rejetés par la Suisse proviennent de la production agricole.
Le méthane, ça vient de l'élevage, des ruminants. Et si bêtement on abattait tout le cheptel suisse ?
Il n'y a pas de doute que l'élevage contribue pour beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. L'élevage intensif suppose aussi l'importation de fourrage. C'est encore un phénomène qui produit des gaz à effet de serre.
Et donc ?
La réduction de l'élevage, l'adaptation de l'élevage au potentiel de la Suisse, il faut nourrir le bétail avec les ressources dont on dispose, enfin, dans notre pays. Ça, c'est l'une des recommandations de la Commission.
Je sens une petite résistance à mon idée. Mais il faut quand même réduire l'élevage, non ?
Oui, réduire. Réduire considérablement. C'est d'ailleurs une réflexion plus générale sur ce qu'on appelle l'empreinte écologique.
Si je résume, les technologies de séquestration de gaz à effet de serre ne sont pas une solution unique. Si on les applique, ça va prendre du temps. Trop de temps. Donc, il faut réduire nos émissions maintenant. Tout ceci me semble empreint de bon sens. Alors pourquoi diable une commission d'éthique passe son temps à réfléchir à cette question ?
Il y a probablement différents, je dirais, niveaux de réflexion. Le bon sens, c'est quelque chose que nous avons intégré. C'est un peu la sagesse du quotidien. On sait comment se comporter dans la relation aux autres. Là aussi, il y a beaucoup de bon sens. Et puis, à partir du moment où ce bon sens s'exprime sous forme de règles, on peut parler de morale. Là encore, c'est quelque chose que nous avons reçu par l'éducation, que nous avons intégré. Et l'éthique, c'est encore un niveau de réflexion, un recul supplémentaire. C'est vraiment une démarche rationnelle où l'on essaye de dire, à partir de certains principes, si tel choix est éthiquement valable ou non, s'il s'agit d'une action juste.
Une action juste pour des enjeux énormes. Il y a la santé de la planète, notre sécurité alimentaire et...
La sécurité alimentaire de celles et ceux qui viendront après nous. Ça fait partie aussi de la réflexion éthique. Quels sont les droits des générations futures par rapport aux générations présentes ? C'est tout un débat philosophique très très complexe. Parce que bon, en théorie, on peut dire que les générations futures sont purement hypothétiques. Elles sont pas encore là. Théoriquement, elles ne pourraient jamais exister. Mais ça fait partie de ces pondérations qui sont pas faciles, mais qui sont importantes à faire et surtout à exprimer de manière explicite.
La Suisse s'est engagée à réduire ses gaz à effet de serre.
Ce devoir peut être compris au sens moral. Dans ce cas, l'atteinte de l'objectif est une obligation morale, c'est-à-dire une injonction ou une interdiction justifiée par une exigence morale. L'obligation morale ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose indépendamment de son propre intérêt immédiat ou futur. En ce sens, elle ne laisse aucune marge de manœuvre, du moins tant que rien d'impossible n'est exigé.
Non, mais sérieux. Vu l'urgence de la situation, c'est pas un peu léger ? Une simple obligation morale ?
Il y a une réflexion morale qui conduit à des jugements moraux. Par exemple, un jugement moral, en l'occurrence, ça serait de dire la consommation de viande dans une civilisation telle que la nôtre est beaucoup trop importante, il faut la réduire. Ça, c'est un jugement moral. Après, il y a ce qu'on appelle l'effectuation du jugement moral. C'est qu'en fait, il y a la mise en œuvre, enfin, il y a la vie concrète. Et là, ça pose encore d'autres questions. Je comprends parfois les agriculteurs qui ont souvent un sens très marqué de leur responsabilité, un sens aussi de la transmission de génération en génération. Les agriculteurs se sentent accusés. Et ça, c'est pas du tout le but de notre réflexion. Et là, nous sommes dans une situation de crise, d'adaptation forcée. Donc, il faut aussi un encadrement, un accompagnement de cette transition difficile.
Difficile, oui. Mais est-ce que cela a vraiment un sens ? La Suisse est un mini confetti sur la planète. C'est pas elle qui va changer la donne.
La Suisse, c'est vrai, la Suisse est un pays relativement petit. En même temps, c'est un pays dont le niveau technologique est très élevé. Un pays qui dispose de moyens. En même temps, un pays neutre aussi. Enfin, il y a toute une tradition de neutralité politique et d'action humaine basée sur cette neutralité politique. Donc, je crois que la Suisse a un rôle exemplaire à jouer.
Un rôle à jouer ? Des efforts à faire ? Il y en a. On a envie d'y croire. Mais on est encore loin de récolter les fruits technologiques qui nous promettent de soigner notre climat. Et à la fin, qui a envie d'acheter des fruits pas mûrs ? Ça serait le comble pour soigner l'agriculture. Il ne renonce à aucun effort. Jérôme Nussbaum, habilleur musical et réalisateur qui cultive si bien l'âme de microscience. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice et éleveuse de podcasts. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique qui sème et qui pique parfois des idées. D'ailleurs, si vous en avez des idées ou si vous avez des questions, envoyez-les nous sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Play RTS, Apple Podcasts, Spotify.